Frères et sœurs bien-aimés, la semaine dernière, le dimanche du bon pasteur fut l'occasion de méditer sur les vocations sacerdotales, de prier pour elles, qu'elles soient advenues ou à venir. Aujourd'hui, le cinquième dimanche de Pâques, l'Évangile et l'Épître me suggèrent de prolonger notre intercession en faveur des prêtres, mais en faveur des évêques plus spécialement, notamment au titre de gardien de la vraie foi. En effet, le mot même d'évêque vient d'épiscopos, qui signifie veilleur, scopos, mais avec une nuance de hauteur, épi, qui donnerait plutôt donc littéralement surveillant, ou ce qui serait plus joli si ces mots existaient, surveilleur ou superveilleur. En effet, l'évêque est un prêtre chargé de regarder un peu plus loin, et d'un peu plus loin, au profit de tous, de faire en sorte que l'Église et chaque membre ne perdent pas de vue le cap. En tant que successeur des apôtres, il s'adresse tour à tour à la communauté et au monde dans son ensemble, pour lesquels il demeure des interlocuteurs privilégiés. Et pour les chrétiens, ce ministère est vraiment précieux. Nous avons tôt fait d'être submergés ou distraits, nous avons besoin de cette parole d'autorité. On pourrait dire qu'en instituant ces serviteurs des serviteurs, ces pasteurs des pasteurs, ces gardiens des gardiens, Dieu a voulu sécuriser son Église. Alors, à la lumière de l'enseignement de l'évêque Saint-Pierre, qu'on a entendu dans l'Épître, je vois trois points d'attention confiés à la vigilance des gardiens de la foi, mais confiés aussi à tous les prêtres et tous les fidèles qui tous surveillent le dépôt de la foi comme le plus précieux des trésors. Pour saisir la portée de l'image de la pierre taillée que choisit et développe le premier pape dans son Épître, faisons un détour dans une parabole de Jésus qui me semble victime depuis au moins un demi-siècle d'un contresens aussi confortable que mortifère. Il s'agit du fameux « levain dans la pâte » que Jésus emploie pour désigner l'avènement du royaume. On a déduit de cette expression que les chrétiens devaient s'enfouir dans le monde comme une pincée de levure dans la farine, ce qui est vrai, mais on est venu à déclarer, à penser que toute l'action chrétienne devrait se borner à essayer de transformer le monde existant. Ce qui est faux. Cette transformation du monde par l'Église est une œuvre nécessaire, mais pourquoi opposer le fait de se mêler à la farine du monde au fait de produire celle-ci? Pourquoi formuler l'injonction de renoncer à produire nous-mêmes la pâte? Dans les années 60, 70, 80, ça a consisté à en finir, à abandonner les œuvres propres de l'Église, c'est-à-dire ces initiatives catholiques ouvertes à tous, prenons l'exemple des patronages, en quelques années, ces centres d'éducation chrétienne populaire qui émaillaient le territoire français à partir de milliers de paroisses ont soudainement disparu dans l'idée d'être plus efficaces en se rendant présent dans ces imitations laïques que sont les centres aérés, etc. Renonçons à notre pâte pour mêler discrètement le levain de l'Évangile au sein de la société. Le résultat a été catastrophique. Et cela pour une raison que j'oserais qualifier de chimique. Le levain de l'Évangile ne prend pas dans toute farine. Les chrétiens sont mal inspirés en se dispensant paresseusement d'apporter eux-mêmes la pâte. Alors l'image choisie par le chef des apôtres nous permet justement de dénoncer cette funeste interprétation des choses. Il déclare au contraire que Jésus est la pierre angulaire, qu'il s'agit de la poser au fondement de toute chose, de toute œuvre, de toute initiative chrétienne. Agir en chrétien dans le monde ne consiste pas seulement à se frayer une petite place, à obtenir la permission d'exister, à demander l'autorisation de prier ici ou là. Autant jeter une pincée de levain dans une mesure de plâtre. Ça ne produit rien. Non, c'est à nous de fournir la vraie matière, de choisir d'apporter cette pierre initiale et même de lui donner sa forme. C'est ce que Dieu veut. Cela accomplit cette promesse que Pierre rappelle, qui vient de la prophétie d'Isaïe. « Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celle qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. » Illusion des entreprises qui visent soi-disant à rejoindre le Christ dans un second temps. La foi n'est pas une cerise sur le gâteau, mais le tout du chrétien. Sans doute que Saint-Pierre avait en tête le psaume 126, vous savez, le Nisi Dominus, « Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. » Jésus, pierre rejetée, corps mort, est saisi par le Père qui, en le ressuscitant, l'établit comme fondement de la vie et de la mission de l'Église. Et il nous prie de faire de même. Croire, C'est fonder, c'est œuvrer, c'est bâtir. Celui qui croit en moi, dit Jésus, fera les œuvres que je fais, et même de plus grandes, ajoute Jésus. Maintenant, si nous avons admis que sans Jésus, nous ne pouvions rien faire, et qu'avec lui, impossible n'est pas chrétien, il y a tout de même un autre risque qui surgit. Celui de céder à l'illusion selon laquelle la nécessaire dédicace de nos œuvres, qui fait que nous avons posé notre Seigneur Jésus-Christ comme pierre d'angle, assurerait une garantie de catholicité séculaire. Voilà une chimère que dément l'histoire de l'Église et surtout de nos communautés ecclésiales qui la composent. On verra notre cathédrale, par exemple Notre-Dame, œuvre d'Église consacrée au Saint-Crème, devenir sous la Révolution temple de la raison et finalement spoliée. Certains rêveraient encore d'ailleurs d'en faire un beau musée. Merci les chrétiens d'avoir élaboré cette belle pâte, voici. Un bel édifice pour la culture, on vous laissera peut-être célébrer une petite fête une fois de temps en temps si vous y tenez. Ou dans un autre domaine, combien d'écoles, parées de l'épithète catholique, qui induit une naissance sur les fonts baptismaux, divulguent avec encore plus d'efficacité que les collèges de la République l'esprit du monde, en profitant du crédit naïf des parents. Non, la dédicace initiale n'est pas un acte magique. Comme la consécration baptismale, elle est un don qui se renouvelle par justement le renouvellement des promesses du baptême, par une fidélité en acte. Un chrétien, non moins qu'une œuvre chrétienne, n'est pierre vivante que s'il consent, à partir du rite qui l'a fait passer des ténèbres à la lumière, à s'offrir selon un sacerdoce saint par Jésus-Christ en sacrifice agréable à Dieu, écrit saint Pierre. Toute église, toute communauté, toute école, tout patronage, tout hôpital, toute initiative, toute institution, tout mouvement d'église ici-bas court le risque de passer de l'état de pierre vivante à celui de corps inerte si l'entretien de sa foi n'est pas activement assuré, assuré de la pierre angulaire à la clé de voûte. Le fait de se dire vaguement ou solennellement catholique ne change rien. Toute œuvre inspirée peut expirer, devenir pierre morte. Et pierre morte, en passant, ça ne veut pas dire pierre moche. Le monde apprécie beaucoup le patrimoine chrétien. Et cela l'annexerait bien d'ailleurs. L'émotion le saisit lorsqu'il le voit partir en flammes. Assurément, il n'est guère naturel de considérer que des pierres puissent être vivantes. C'est vrai que c'est une image un petit peu étonnante quand on y réfléchit. Il faut la sage folie d'un regard de foi pour saisir l'action divine. Aussi est-il vain d'en vouloir au monde d'ignorer la nature invisible de notre pierre angulaire, sa présence même, de ne voir là qu'un joli rocher taillé et poli. Employons plutôt notre énergie à défendre, coûte que coûte, la liberté de fonder, la liberté d'édifier, la liberté d'animer, et dans le même temps prévenons, empêchons, corrigeons le détournement ou la récupération des œuvres sacrées fondées sur le Christ, dans l'espoir que ce qui les a inspirées se laisse voir à ceux qui ne voient pas encore. En effet, il pourrait arriver que la foi ait plus de chances de s'éveiller au contact des œuvres qu'à celui de la parole, comme nous l'enseigne Jésus. Aujourd'hui, si vous ne croyez pas en moi, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Il est donc nécessaire pour cela que la foi les anime toujours. Quelle vigilance de tous les instants doivent exercer nos surveillants, nos épiscopes, tant à l'entour du bercail pour veiller à ce que personne ne s'y introduise par effraction, qu'à l'intérieur du troupeau pour lui rappeler sa véritable mission. Enfin, chers amis, même si la pierre d'angle est bien posée au début, même si on prend garde de demeurer pierre vivante, n'imaginons pas que l'édifice ne devra pas essuyer de tempête. Au contraire, l'infidélité assure une forme de tranquillité, alors que la fidélité a toujours un prix. Mystérieusement, le fondement même qui représente un appui si solide pour les fils de Dieu en vient à constituer pour les autres une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche, dit saint Pierre, et il tombe ceux qui refusent d'obéir à la parole. Il y a donc une confrontation inéluctable. Plus encore, avoir choisi pour roc ce que le monde avait refoulé fait courir le risque béni de devenir nous-mêmes objet de rebut, pierre rejetée. En ne formant qu'un seul corps avec la tête, qu'un seul édifice, les pierres assemblées subissent le même sort que la pierre d'angle. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, dit Jésus, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et cet avertissement n'est pas destiné à nous démobiliser, mais à faire nôtre ce qu'on pourrait résumer par ces mots. Nous sommes sans illusion, mais pleins d'espérance. Si la persécution survenait, avec son lot de destruction ou d'abandon, nous serions prêts à reprendre le chantier et à en ouvrir d'autres, comme nous le faisons depuis 20 siècles, au nom du Seigneur, inlassablement débiteur de son amour et au service de son dessein. J'aime beaucoup ce proverbe rwandais qui souligne la douce détermination divine. Quand le diable jette des pierres contre l'Église, les anges les ramassent pour continuer la construction. Frères et sœurs bien-aimés, dans tous ces combats, les épiscopes se trouvent particulièrement exposés en tant qu'autorité officielle de l'Église, devant les pouvoirs publics, puis en tant que père dans la foi pour tous les fidèles. Prier pour eux est donc un investissement très rentable qui profite à tous, c'est ce que je vous propose de faire en ce dimanche. Avec eux, luttons pour vaincre ces trois illusions que l'image de la pierre angulaire permet de dissiper et que je rappelle. Premièrement, celle qui consiste à oublier de construire nous-mêmes nos œuvres, qui doivent être les œuvres de Jésus. Faisons-le avec nos propres mains, en posant le Seigneur comme pierre d'angle, en confessant qu'il est la vie, sans laquelle rien ne fut et ne sera jamais. Ce qui n'est pas fondé en Dieu est vain. Deuxièmement, celle qui consiste à penser que toute pierre bénie est vivante à jamais, ce qui est une illusion. Reconnaissons humblement que Jésus est le chemin et par conséquent qu'on n'aura jamais, ici-bas, fini de prendre et de reprendre ce chemin. Ce qui a donc été fondé en Dieu doit encore grandir avec Dieu, dans un renouvellement de promesses. Troisièmement, illusion qui consiste à nous étonner de susciter l'aversion, alors que Jésus n'a cessé de nous en avertir. N'oublions pas qu'il est la vérité, révélation divine, qu'il importe d'autant plus de servir avec humilité, joie, miséricorde, sans donner de leçons, mais en n'offrant rien de moins que la parole qui sauve, sa parole. Ce qui grandit avec Dieu a un prix, celui du sacrifice. Chers amis, à l'approche de la Pentecôte, prions pour que nos évêques soient gardés dans la vraie foi et qu'ils nous affermissent sans cesse en elle, pour qu'ils veillent avec amour, avec confiance sur le troupeau qui leur est confié et puissent compter sur leurs prêtres, sur leurs fidèles, comme autant de chiens de berger. Amen.